Élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. On vient de passer les 8 ans d'existence et on avance et on continue de parler de cette qualité de l'air. On ne s'arrête pas. On s'aperçoit au fil de toutes ces années, si on peut revenir quelques instants dessus, que la prise de conscience progresse, mais là, on voit aussi des considérations qui puissent être d'ordre santé en premier plan, ce qu'on désirerait tous. On a de l'économie d'énergie à associer, notamment avec nos bâtiments, et on a également des contraintes budgétaires qui se font, et à l'heure actuelle, on est quand même en train de voir une petite musique qui essaie de grignoter par-ci, par-là, de rester sur des fondamentaux qui sont pas suffisants au regard de la qualité de l'air dans nos lieux de vie, notamment, et pour lesquels il convient de continuer à faire mieux prendre conscience pour avancer, pour que chacun respire bien évidemment, et au regard aussi de cette santé qui c'est démontré, ça se voit de plus en plus, mais il y a des coûts de la santé associés à cette qualité de l'air qui nous impacte évidemment et qui est pas forcément la plus préservante pour nous, ou du moins pas forcément assez acceptable. On va progresser sur ce sujet et on continue pour montrer justement qu'il faut continuer de bien prendre en compte dans les bâtiments cette qualité de l'air au regard de comment on conçoit nos bâtiments, comment on en prend soin, bien entendu. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Yann Dervin. Bonjour Yann.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, tu arrives de Montpellier.
Oui, merci de m'accueillir aujourd'hui.
Bah oui, avec grand plaisir, parce que on va parler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, Yann, casquette QAI, donc tu es consultant en bâtiment durable, notamment tu as travaillé avec l'association Effinergie au regard de, on parlait tout à l'heure d'économie d'énergie. Pendant 10 ans, et là ça va nous amener quand même un petit peu plus loin dans notre, sur cette émission aujourd'hui, où on va rentrer un petit peu dans le cadre de ce qui se fait, et un peu plus particulièrement des labels, notamment. Il y en a beaucoup.
Oui, tout à fait. Je vais prendre aujourd'hui une casquette QAI puisque dans le cadre de ma mission, je suis responsable des relations publiques pour Immolab, qui porte le label intérieur. Donc on va parler QAI, même si Effinergie parlait déjà de QAI, a commencé à alimenter, la réflexion autour de la ventilation et de la nécessaire prise en compte de ces aspects de qualité d'air intérieur dans les bâtiments.
Et au travers notamment du réglementaire, du normatif, par rapport à cette qualité de l'air. Une première question, Yann, toute bête, c'est quoi une bonne qualité de l'air ?
Alors, c'est quoi une bonne qualité de l'air ? C'est, en tout cas, un environnement qui va permettre d'assurer la santé en fait des occupants, des usagers d'un bâtiment, qu'on soit dans des maisons, qu'on soit dans des logements collectifs, qu'on soit dans le tertiaire au bureau, on va la traduire après la qualité de l'air par un certain nombre de paramètres, notamment de mesures physico-chimiques, mais voilà, globalement c'est la santé, assurer la santé à long terme, santé pérenne des occupants des bâtiments.
Voilà. Préserver la santé, puisque un air sain, par essence, finalement, on pourrait croire que ça existe, mais ça n'existe pas, puisque quand on est en bonne santé, si on a un air sain autour de nous, on ne sera pas en meilleure santé que ce qu'on est. Donc en fait, l'air sain, finalement, et là, on en parle au niveau médical, hein, ça n'existe pas. Comme un air pur n'existe pas, puisqu'il est mélangé énormément. Et c'est pour ça aussi. À part l'eau distillée, mais qu'on va avoir beaucoup de mal à absorber, qui ne va pas être forcément notre ami sur le sujet. En ce qui concerne notamment cette dimension. On parlait un peu du réglementaire, mais qui est vraiment crucial et qu'il faut réfléchir en approche holistique, c'est-à-dire en approche globale. On va rentrer dans cette approche globale, si tu le veux bien, Yann, au regard un petit peu, un premier point, on va traiter quelques points ensemble, la directive EPBD et la qualité de l'air. Rapidement, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce syllogisme EPBD, hein, qui a l'air un peu barbare, mais finalement... qui est important.
C'est en tout cas c'est du barbare énergétique parce que le PDD est vraiment une lignée de directives. On est à sa 4e version parue l'année dernière et c'est vraiment une lignée énergétique, c'est-à-dire que c'est une directive qui est faite pour diminuer la consommation énergétique des bâtiments. Cette nouvelle version de directive va plus pousser les feux sur des éléments, alors qui vont nous intéresser, on va en parler après, mais surtout sur le carbone, c'est-à-dire qu'elle a été surtout faite pour décarboner aussi les bâtiments, la consommation des bâtiments, commencer à réfléchir en analyse de cycle de vie sur les bâtiments. On va tendre vers un concept qui s'appelle zéro energy building, alors qu'avant on était sur le zéro emission building, c'est-à-dire plus d'émissions de CO2, alors qu'avant on était sur le nearly zéro energy building. Donc on a une sémantique qui évolue
approché du zéro
sur le carbone par rapport à l'énergie. Alors on pousse aussi les feux sur l'énergie, évidemment. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la QAI. Et dans cette directive, on a un certain nombre de points qui sont marqués, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une vision qui est un peu plus, intégrée, holistique, hein, de cette réglementation européenne, et notamment de la directive EPBD, qui va nous demander, dans un de ses objets, hein, c'est directement dans les objets de la directive, la performance de la qualité de l'environnement intérieur des bâtiments. Et ensuite, c'est décliné selon différents articles et différents éléments.
Alors, au niveau de l'EPBD, on le voit, elle ne fixe pas des seuils de polluants chiffrés, bien évidemment, elle instaure plutôt un cadre d'obligation de moyens très fort. Par contre, est-ce que ces deux points importants que sont, on réduit nos consommations énergétiques et de l'autre côté pour notre bâtiment, on veut aussi avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, le bâtiment le plus acceptable et désirable possible au regard de la qualité de l'air, est-ce qu'on peut faire de l'énergétique et de la qualité de l'air? On pourrait se dire, parce qu'on entend de partout, oui, mais si je fais rentrer beaucoup d'air, ça va me coûter de l'énergie, parce que cet air, l'hiver, on rentre de l'air froid et on le fait sortir. On est obligé de re-réchauffer à nouveau un volume plus grand, et ça peut nous poser des problèmes. Est-ce que la directive s'attaque à ça?
C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, on peut très bien faire de l'excellente qualité, de diminution de consommation énergétique, tout en occultant complètement le côté ventilation, le côté renouvellement d'air, et ça nous permet de faire des économies. Par contre, pas des économies de santé, comme on le disait au départ.
Bah, si on veut faire des économies, qu'on met les gens dans un bâtiment, qu'on renouvelle pas l'air, c'est comme si on le mettait dans une bouteille fermée. Au bout d'un moment, il va se passer qu'on va se sentir mal parce que on n'aura plus d'air suffisant pour bien respirer.
Exactement, c'est le concept de bouteille thermos qui a été pas mal repris sur les, notamment les labels de performance énergétique.
Et surtout qu'en plus, au fur et à mesure du temps, on a amélioré les conceptions, la réalisation de nos bâtiments, les rendant, que ce soit dans du neuf ou que ce soit de la rénovation, les rendant plus étanches encore.
Et oui.
Donc on a finalement accentué ce phénomène.
C'est notamment, alors c'est vrai dans les bâtiments neufs, c'est aussi vrai dans les bâtiments en rénovation. Hein, on pourra en parler si tu veux un peu plus tard. Mm-hmm. Si je reviens à ta question d'origine sur le PBD et sur comment en fait on va intégrer la qualité d'air. En fait, le PBD exige maintenant qu'à chaque fois qu'on fait des améliorations en termes de performance énergétique des bâtiments, on intègre systématiquement la problématique de qualité d'air. Alors, elle va pas donner énormément de moyens. Elle va parler un peu de ventilation, de contrôle, de système de ventilation.
Elle va surtout parler que de contrôle de système de ventilation, qu'il soit conforme à la pose. Mais est-ce qu'on derrière, elle nous parle de niveau de polluants satisfaisamment traités pour qu'on soit dans une qualité de l'air qui soit bonne?
Alors, c'est pas directement l'objectif de cette directive EPBD. C'est dans le texte, c'est pas écrit. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif chiffré sur la QAI dedans. C'est juste écrit qu'il faut faire attention à la qualité d'air intérieur.
Un petit peu dommage. C'est peut-être le step d'après, on espère.
Oui, et puis on a déjà la transcription en droit français qui va permettre de faire évoluer ça. Et puis on a d'autres possibilités pour faire évoluer la qualité d'air intérieur dans les bâtiments. On va dire en parallèle de cette directive EPBD. Mais c'est vrai qu'on n'a pour l'instant pas de directive claire, c'est le cas de le dire, venant de l'Europe sur la qualité d'air intérieur dans les bâtiments, alors qu'on en a sur la qualité d'air habituelle,
la qualité d'air extérieur. On retrouve un peu les discussions entre les différents pays européens pour ces directives, cette mise en place, avec une avancée des pays nordiques assez forte, assez marquée.
Il y en a qui,
moins pour certains.
Et d'autres qui freinent. Voilà. C'est classique du débat européen. Malheureusement, actuellement, le débat européen, il est un peu compliqué. hein, comme un peu partout d'ailleurs, avec une moindre ambition environnementale quand même que ce qu'on a pu connaître par le passé.
Je crois qu'on l'a bien vu.
Ouais. Et espérons que ça va quand même évoluer dans le bon sens.
Bah, en parlant sur l'émission, c'est aussi pour garder l'œil ouvert sur ces problématiques et pas de se dire bah on passe à autre chose. Non, faut pas l'oublier, ça reste toujours comme je le dis régulièrement, la qualité de l'air c'est pas une actualité. L'actualité, c'est du permanent, on a besoin autant qu'on respire à chaque instant, on a besoin que ça soit pris en compte aussi, pas de manière cyclique, hein, plutôt une manière correcte et prolongée. Les mécanismes cruciaux, on le voit hein, sur cette PBD, obligation d'établir des systèmes d'inspection régulière, on l'a vu, et indépendante des systèmes de ventilation, et puis indicateur de préparation intelligente qui encourage l'utilisation de capteurs et de gestion aussi de la GTB pour piloter, faire du monitoring. On va le retrouver ça plutôt dans le milieu tertiaire en fait.
Oui, tout à fait. En fait, on a un indicateur qu'on appelle en anglais SRI, qui est un système qui définit en fait les bâtiments qu'on va qualifier entre guillemets d'intelligents, c'est-à-dire des systèmes qui sont pilotés, connectés, etc. Et la directive donne les éléments en fait de les critères, hein, puisque faut se rappeler que ces directives, elles sont traduites dans le droit des différents pays européens. Donc, il s'agit que tout le monde utilise les mêmes critères pour définir ces bâtiments intelligents. Et dans le côté bâtiment intelligent, il y a le côté de monitoring possible, de capteurs de CO2 qui vont permettre d'affiner la qualité d'air, de le piloter à l'échelle d'un bâtiment.
Et d'être en réalité avec l'usage.
Tertiaire, bien sûr. Et pardon.
Et d'être en réalité avec l'usage, puisqu'on oui. imagine bien que dans une salle de classe, si on, avec 30 élèves dans la même salle, le taux de CO2 va augmenter très fortement et il convient d'assurer, notamment déjà pour le bien-être des capacités cognitives des enfants, que le renouvellement d'air soit suffisant afin que tout le monde s'y retrouve bien au titre du confort d'été. Et du confort d'hiver. Hein. Quand il va faire trop chaud, si à un moment donné on n'a pas de renouvellement, on va être aussi extrêmement contraint dans ce bâtiment et avoir, comme on s'est rencontré, le cas dans quelques lycées auxquels j'ai eu connaissance, des malaises de personnes, d'enfants. Donc on peut pas laisser ça comme ça, évidemment. Un petit peu plus loin, qui revient sur ce sujet, parce que là, ça tourne assez rapidement là, l'horloge, vous le savez. La nouvelle directive de l'air ambiant en 2024, hein, d'octobre 2024 notamment, a parlé aussi au niveau européen d'abaissement des valeurs limites des polluants. Du coup, est-ce que ça signifie, en parlant de ces polluants, hein, on réduit par exemple les particules fines de taille 2,5 de 25 microgrammes à 10 microgrammes par mètre cube, en objectif direct pour la QAI, mais cela signifie, est-ce qu'on a besoin que les systèmes de filtration des bâtiments doivent être repensés?
Oui, alors cette directive air ambiant, elle fixe les éléments liés à la qualité d'air qui est la qualité d'air extérieur, en fait, hein, celle qu'on respire tous quand on est à l'extérieur des bâtiments. Mais comme les bâtiments sont renouvelés par l'air extérieur, il est clair que si on renouvelle l'air par des niveaux de pollution qui sont importants, on va pas régler le problème
on
de la qualité d'air intérieur.
On va continuer de surcharger ce qui se passe à l'intérieur.
Voilà. Faut quand même rappeler que l'air intérieur on estime qu'il est 4 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est une moyenne, il peut y avoir des exceptions, parce qu'on a évidemment des sources de pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments, de par notre usage ou de par le développement de moisissures, par exemple.
Et le 4 à 8 fois plus pollué, il faut rappeler que c'est pas sur la totalité des polluants. Hein, c'est ça, des polluants qui sont identifiés, on est là sur les particules, par exemple. Mais il y en a tout un tas d'autres qui peuvent être plus ou moins chargés en fonction de l'environnement extérieur direct.
Oui. Alors, pour répondre à ta question sur du coup la nécessaire prise en compte de cette pollution extérieure, en fait, il faut que les concepteurs de bâtiments, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, en fait, prennent en compte les sources de pollution extérieure pour orienter correctement les prises d'air des bâtiments. J'ai encore assez peu fait, sauf dans les labels dédiés dont on parlera plus tard, et aussi de gérer la filtration si nécessaire de ces polluants, ainsi que la maintenance, puisque la maintenance de tous ces systèmes est extrêmement importante, parce que j'ai connu des systèmes de ventilation, notamment des VMC double flux. Au bout de 6 mois, vous avez le fil qui est complètement saturé. Et si personne s'occupe de changer tout ça, on a un gros problème de renouvellement d'air.
C'est là où la GTB peut avoir son rôle, puisqu'il y a des alertes sur les centrales de traitement d'air, notamment les double flux. On sait qu'il y a des alertes d'encrassement des filtres. Et là, le pilotage est tout à fait assuré.
Alors, dans tout ce qui est bien...
Contrairement à ce qu'une ventilation chez soi, quand elle tombe en panne, on ne le sait même pas.
Voilà, oui.
Ou quand elle s'arrête, ou que ça fonctionne.
Alors,
pas.
On a moins de double flux chez soi, donc c'est un peu moins problématique.
Faudrait peut-être qu'on y pense à aussi cette gestion de filtration et de récupération énergétique, puisqu'elle le permet.
C'est tout à fait... c'est un problème... Le problème des particuliers, qu'on soit en logement collectif, où on peut avoir d'ailleurs des systèmes double flux dans certains cas, ou chez les particuliers, c'est la maintenance. C'est-à-dire que en général, on fait l'économie de l'entretien du matériel et les installations, quand elles sont installées, fonctionnent peut-être, si elles sont bien installées, ce qui est un autre sujet. Mais au bout d'un an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, qu'est-ce que ça donne ? Il y a peu de monde qui va voir en fait ce que ça donne.
Je pense qu'il y a peu de monde qui va le voir parce qu'il n'y a pas d'alerte particulière. Quand on est dans sa voiture, le filtre d'habitacle est à changer, la voiture l'indique, le voyant orange dit « il faut le faire ». Dans la maison, on n'a rien.
Pas dans la maison.
Pas dans le logement.
On n'est pas encore à ce niveau de sophistication qu'on peut avoir dans les voitures.
Pourtant, c'est pas compliqué, puisque la plupart des matériels le permettent en plus.
Oui, et puis il suffirait d'avoir une horloge, en fait. Enfin, on sait qu'au bout d'un certain temps, en fonction de la pollution extérieure, il faut changer les filtres. Il faudrait au moins aller voir tous les ans, ce qui est normalement obligatoire d'ailleurs dans
le collectif. Après, il y a quand même une expérience aussi qui est assez importante au regard des personnes qui ont des problèmes respiratoires ou qui sont dans des zones un peu contraintes. Quand ils ont vu pour la première fois le niveau d'encrassement de leur filtre, ils comprennent qu'il faut bien s'en occuper.
Et c'est vrai que c'est un élément pédagogique.
Parce que quand on dit, regardez, votre filtre n'est plus blanc comme une feuille de papier, mais qu'il est devenu gris sombre comme une tablette de bureau un peu sombre, on comprend vite que c'est tout ce qu'on n'a pas respiré finalement, et c'est bien mieux.
C'est vrai que c'est assez pédagogique. Ça marque les gens.
Voilà, il faut le porter, cette pédagogie. Un point rapidement sur la RE2020 et le contrôle de la ventilation, puisque ça fait quand même, ici sur l'émission, on en a parlé depuis très longtemps, hein, ça a été aussi une avancée, même si dans le petit milieu de la qualité de l'air, on se dit ah, c'est pas assez. Que peut-on dire rapidement sur cet RE2020 et ce contrôle, Yann ?
Le RE2020, on a généralisé l'étanchéité des bâtiments, et donc en parallèle, il fallait regarder les aspects de ventilation, protocole de ventilation sur lesquels d'ailleurs Effinergie a travaillé dès le départ. Enfin, c'est aussi des travaux qui sont issus de l'initiative d'Effinergie sur l'étanchéité et la ventilation des bâtiments. Et donc cette étanchéité des bâtiments nous impose de respecter des exigences fortes en termes de contrôle des systèmes de ventilation, de contrôle des débits aux bouches des systèmes de ventilation, de manière à s'assurer que on va évacuer les polluants intérieurs. Donc ça, c'est bien prévu dans la RE, ça a été la première fois qu'une réglementation française sur le bâtiment, en fait, introduisait cet aspect de contrôle via un protocole de ventilation.
En ce qui concerne également un petit focus qui est assez intéressant là-dessus, le logement en rénovation, on a des contextes réglementaires qui s'imposent pour garantir que l'isolation qu'on a fait sur ces bâtiments depuis longtemps ne dégrade pas la qualité de l'air et ne crée pas de risque de condensation. Hein, mais d'un moment, il faut que le bâtiment soit perspirant. Hein, ça, c'est aussi une notion importante. En gros, qu'avons-nous comme incitation qui peut nous permettre de dire... Parce que le nœud du problème de cette isolation qu'on a renforcée et de cette qualité de l'air qu'on doit assurer, c'est l'étanchéité sans ventilation contrôlée. Ça s'apparente à une catastrophe sanitaire.
Oui, c'est vraiment le point critique, enfin la grosse critique que j'ai à faire sur la rénovation et sur les dispositifs liés à la rénovation, c'est qu'on a mis en place des dispositifs, on a engagé un renforcement de l'isolation, un renforcement de l'étanchéité des bâtiments, sans traiter l'aspect ventilation. Il y a que quelques cas de rénovation globale des bâtiments, notamment ceux qui sont concernés par la RT existant avec la méthode qu'on appelle globale, où il y a là une exigence de présence de ventilation et de vérification de l'installation. Mais dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans 99% des cas, il n'y a pas d'exigence sur la ventilation. C'est-à-dire qu'on va faire des travaux de rénovation du bâtiment sans y faire attention. Et on constate que, sauf à avoir un artisan qui est sensibilisé au sujet, qui va avoir une approche un peu globale de la rénovation de la maison, et ça existe, mais dans la majeure partie des cas, quand même, la ventilation n'est pas prise en compte. Et donc, on est en train d'étanchéifier, d'isoler des bâtiments. Les bâtiments, ils se ventilaient. Alors, il y a un arrêté de 82, hein, qui est bien connu dans le milieu de la ventilation. C'est le seul.
Et qui n'a pas bougé depuis. Alors que voilà. Le monde de constructif a bougé.
Et qui prenait en compte des débits de ventilation minimum dans les pièces, en fonction des différentes pièces. Débit de ventilation minimum, mais qui tenait compte du fait qu'il y avait une espèce de ventilation, entre guillemets, naturelle, ou plutôt parasite, par les menuiseries, par les murs, etc.
Et qu'on estimait qu'elle était suffisante, alors que c'est pas le cas.
Ben, entre les débits affichés plus cette air parasite, on considérait que c'était suffisant à l'époque. Mmh. Maintenant qu'on a des bâtiments étanches, ces débits sont notoirement insuffisants. Mmh. Et en plus, on renforce cette étanchéité, on renforce cette isolation par des dispositifs incitatifs. Et du coup, on risque, comme tu le disais, d'arriver sur une crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on va observer des pathologies dans les bâtiments des personnes qui ont voulu bien isoler, étanchéifier leur bâtiment, mais qui n'ont pas géré la ventilation.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la santé doit primer sur ce sujet.
Pour moi...
À l'heure actuelle, on a regardé le bâtiment au titre du bâtiment et de sa conception, mais... La santé doit primer sur ça et la santé va même, au regard de tout ce qu'on vient de voir depuis le début, la santé va primer, je dirais, sur l'énergétique. Et l'énergétique doit être une composante qui va avec la santé.
Tu as tout à fait raison. Pour moi, tout dispositif d'incitation, alors on comprend hein, les dispositifs d'incitation à la performance énergétique, évidemment, on est dépendant des énergies fossiles encore, on doit diminuer notre consommation d'énergie dans les bâtiments. Voilà, tout ça, c'est tout à fait accepté. Ces dispositifs doivent impérativement être liés à la santé et donc à des paramètres qui vont pouvoir s'assurer qu'on respecte la santé. Ça va être des protocoles de vérification de la ventilation, comme on le disait tout à l'heure, ou pour les installations plus importantes, des capteurs et des mesures possibles, notamment quand on a recours à des systèmes de GTB dans le tertiaire.
Tout ça pour gérer toujours nos polluants au regard des particules fines, au regard notamment de ce niveau de renouvellement dont on a besoin. Hein. On n'est pas que sur des débits, on est sur un taux de renouvellement. Vous avez un volume d'une pièce, le taux de renouvellement de temps va nous permettre aussi d'avoir du confort pour éviter, dans le cas d'un nombre de populations important dans la même pièce, d'éviter les transmissions virales bactériennes. On va avancer, l'émission va assez vite. Je reviens juste sur un point qui est tombé il n'y a pas très longtemps, hein, un article qui est tout récent du 22 octobre 2025, qui va ouvrir un petit peu des perspectives aussi sur ces particules fines. Je ne sais pas si tu en as eu connaissance pour le moment, Yann. 22 octobre, c'est pas si bien, mais la revue The Conversation a parlé du potentiel oxydant des particules. On parle des particules en disant telle taille, la 10, la 5, la 2,5, la 1, et les nanoparticules, plus elles sont petites, plus elles vont avoir un impact sur notre santé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la pollution urbaine ou la pollution de fond, ce pouvoir oxydant des particules n'est pas que fonction de la taille. Et on va avoir, là, voilà, c'est une prise en compte qui commence à arriver aussi, et qui va se dire quelle est la vraie dangerosité finalement de ces particules au regard de leurs différentes tailles.
Oui,
et là, on commence à rentrer un peu dans du détail, hein. Mais ça a son sens.
On est de toute façon dans un domaine où on doit encore faire de la recherche et regarder l'impact de l'ensemble des polluants sur la santé. On s'est arrêté aux particules de PM10, PM2.5. Parce que on avait de toute façon des difficultés à pouvoir quantifier ce qu'il y avait de plus petit. Mais on sait que les particules plus petites pénètrent beaucoup plus dans les poumons,
jusque dans le sang,
évidemment. Et peuvent effectivement entrer dans le système circulatoire sanguin, dont on mesure encore assez mal quelles seront les répercussions. Il y a encore beaucoup de recherches et il faudra faire évoluer ensuite les seuils et les particules et les polluants recherchés en conséquence.
Tout à fait, tout à fait. Mais il y a déjà beaucoup de sujets qui avancent. On regardera avec au regard de la PPA ou du milieu médical. Ils ont déjà pas mal de données là-dessus. Hein, et c'est de plus en plus précis depuis l'après-Covid, finalement. Mais on aura l'occasion de faire une autre émission là-dessus parce que c'est vraiment très large. Un tout petit mot d'une minute sur Cap 2030. Et après, on parlera justement de l'importance de ce qu'on va trouver. Il existe des labels pour cette qualité de l'air. Mais Cap 2030, un petit mot avant tout.
Cap 2030, alors pour faire vite, c'est une initiative collective, associative et Finergie HQE, collectif des démarches bâtiments durables, CSTB, avec le plan bâtiment durable et soutien ADEME et État. Donc c'est une démarche collective qui a démarré en 2022, oui. Il me semble, qui a pour but de définir un cadre commun. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde calcule de la même manière, mais sur les différents sujets environnementaux. L'eau, l'air, les déchets, l'énergie, évidemment, le carbone. Donc le but est de définir en fait un cadre commun, on appelle ça un cadre commun de référence, dans le jargon de Cap 2030. Il y a donc eu un groupe de travail sur la qualité des environnements intérieurs, donc la qualité des environnements intérieurs intègre la QAI.
L'acoustique, la luminosité, le renforcement au changement climatique, ouais. Les conforts et la qualité de l'air, bien entendu.
Exactement.
Qu'on est arrivé, pour aller un peu vite, est-ce que ce Cap 2030 n'a pas encore sorti ses dernières préconisations, mais est-ce qu'on est déjà arrivé à quelque chose qui paraît intéressant? Où en sommes-nous?
Il faut voir qu'on est sur le... Allez, on va dire ce qu'on dit le PPCM en mathématiques, oui. C'est-à-dire le plus petit commun multiplicateur. Voilà. C'est multipartenarial. Hein, c'était complètement ouvert. C'est une démarche à saluer d'ailleurs. Hein, c'était très très ouvert cette démarche de Cap 2030. Et on arrive sur ce socle de référence. On va arriver à quelque chose qui sera le minimum. L'important étant que tout le monde compte de la même façon, qu'on prenne en compte les mêmes paramètres. En qualité d'air, ça va être les mêmes polluants notamment.
Quand même des prises en compte qui sont extrêmement restreintes. On pourrait un petit peu dire après, que petit message si on doit leur dire que ça aille un peu plus loin parce que c'est assez restrictif et on se dit finalement on espère que c'est pas tout ça pour ça.
Oui, après on aurait aimé qu'on aille plus loin sur le monitoring par exemple, on aurait aimé qu'on aille plus loin sur le commissionnement aussi,
sur la prise en compte des polluants tout simplement.
Des installations aussi. Sur la prise en compte des polluants.
Parce qu'il y en a beaucoup pour lesquels on a dit c'est peut-être on s'est créé des contraintes qui n'existent pas finalement et on dit on va pas besoin de les faire.
Mais voilà, c'est une démarche collective, donc c'est une base. Après, libre à notamment les porteurs de labels ou les aspects réglementaires plus tard de s'appuyer dessus pour mettre des exigences complémentaires.
Justement, les labels, on va terminer l'émission avec cela. Donc on a vu pas mal de choses dans le cadre réglementaire depuis le début de l'émission. Maintenant, c'est le cadre... Plutôt les labels généralistes, on va retrouver, il y a HQE, il y a le BRIM, succinctement les expliquer. Et puis justement, c'est souvent ces labels qui nous amènent le step ultérieur, un petit peu plus tard, qui vont nous dire, ils ont éclairé la voie finalement. De quel ordre, quels sont rapidement les labels qu'on peut retrouver et quelles sont leurs petites différences finalement? L'axe commun, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Hein. On est d'accord.
Oui, mais les labels généralistes, on va citer HQE et BRIM par exemple. HQE le français, BRIM le britannique d'origine en tout cas, sont des labels généralistes en environnement. Et donc ils vont chercher à améliorer un projet, ou pousser un maître d'ouvrage à réfléchir, à concevoir un projet le meilleur possible d'un point de vue environnemental. Et donc on a tous les sujets environnementaux. Il peut y avoir la QAI dedans. C'est pas automatique, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des points, des crédits sur d'autres aspects que la qualité d'air intérieur. À moins de cibler une cible spéciale du HQE qui s'appelle santé et confort et qui va aller chercher une cible excellence dans ce cadre-là. Mais il faut que le maître d'ouvrage soit déjà bien motivé pour aller chercher ça. De base, un HQE, de base, un BRIM n'iront pas aussi loin que peuvent le faire d'autres sur la qualité d'air intérieur.
Ça reste généraliste. Mais le sujet existe à l'intérieur.
Oui, voilà. Et ça laisse la possibilité de pousser les feux sur le sujet quand même dans ces labels généralistes. Mais il faut le vouloir, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les points et les crédits spécifiques là-dessus, donc il faut déjà qu'il y ait une bonne sensibilisation du maître d'ouvrage.
pour les autres, alors les secondes générations de labels, les démarches.
Alors, je te cite juste avant les, parce que j'y tiens, les labels bâtiments durables,
ah oui.
Qui sont lancés avec BDM en Méditerranée, BDO en Occitanie, etc. Je les cite hein, juste parce que ce sont aussi des labels généralistes d'un point de vue environnemental et qui eux ont plutôt une approche sur la qualité d'air intérieur qui va être de limiter les installations trop complexes, notamment pour favoriser l'exigence dans le temps de paramètres de qualité d'air. Bon, on va peut-être pas détailler plus que ça là-dessus.
En tout cas, il y a une volonté aussi de bien-être dans le BDM BDO, puisqu'on va retrouver des solutions de ventilation naturelle, de ventilation nocturne, qu'elle soit naturelle ou pas, mais ventilation nocturne pour limiter l'utilisation de la clim. Hein.
Oui, ça c'est le confort ça d'été. Et
mais
le fait
c'est
de,
important
de fait
parce que
de ventiler de manière passive, de manière importante, oui, il y a les brasseurs d'air et la ventilation nocturne qui est très 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 conseillée dans le cadre des démarches BD.
Voilà, c'est conseillé, mais on pourra revenir dessus en fonction de l'usage.
Ça permet, en tout cas, c'est bénéfique pour la qualité d'air intérieur. Et tu me parlais du coup des labels qui vont plus loin sur le sujet QAI et
deux,
qui sont
deux principalement.
Des labels spécifiques. En France, on en a deux. C'est le label écrin qui a été développé par l'ADEME et c'est le label intérieur qui a été développé par Immolab que je représente un peu aujourd'hui. Et là, on va pas s'amuser à aller chercher les différents sujets environnementaux. On se focalise sur la qualité d'air intérieur. Avec une volonté de prouver et de faire en sorte que à réception les bâtiments seront les plus sains possibles pour les usagers et les occupants. Donc là, on peut pas aller chercher des crédits ailleurs. On est obligé de piocher tous les points et tous
avec
les,
la meilleure qualité d'air possible.
Les éléments pour avoir la meilleure qualité d'air possible. Voilà, donc il y a la démarche écrin avec trois niveaux possibles, il y a la démarche intérieure par contre qui est plus stricte sur ces critères.
Écrin, je crois aussi qu'il y a une démarche lors de la réalisation des travaux.
Alors, les deux labels vont s'occuper du contexte du bâtiment, c'est-à-dire est-ce qu'on est en contexte pollué, moins pollué, etc. Vont s'occuper des matériaux utilisés, de la phase chantier du bâtiment, et puis de la réception. Donc il y a ces différents éléments qui sont pris. Un point particulier chez intérieur, la pédagogie est très importante côté intérieur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments de sensibilisation pour les maîtres d'ouvrage, les usagers, qui sont fournis de manière à permettre de faire attention à l'ensemble de la QAI. Parce que le chantier est très important pour obtenir une QAI en exploitation du bâtiment.
Et en plus, cette pédagogie est aussi extrêmement importante, parce que si on réalise des bâtiments qu'on n'a pas expliqué en quoi ils sont vertueux, et surtout qu'on n'intéresse pas les personnes pour que ça permette de faire de la duplication et de s'inscrire dans le temps, il aura manqué une étape.
Oui, oui, tout à fait. Les futurs utilisateurs du bâtiment doivent comprendre aussi comment agir dans leur bâtiment pour conserver une QAI suffisante, sachant que l'usage est évidemment hyper important dans le respect des niveaux de polluants. C'est-à-dire qu'on peut évidemment, par notre usage, inonder un bâtiment de polluants. Enfin, si on fume dans un bâtiment, c'est évidemment pas bon.
Il y en a tout un tas de pratiques qui sont
si
très
on
fortes.
Si cuisine au gaz, c'est pas très bon.
Vous voyez les anciennes émissions. Il y a beaucoup. On en parle beaucoup justement de ces émissions et du poids de ce que l'on a autour de nous et de ce qu'on génère nous-mêmes. D'où l'importance de cette qualité de l'air avant, pendant et dans le suivi, notamment de ce que l'on fait. Merci beaucoup, mon cher Yann Dervin, donc responsable relations publiques d'Immolab, et également, on voit bien ici que la tendance est accentuer l'intégration des critères de la qualité de l'air dans le réglementaire, oui. Même si c'est très long et on sent des embûches et la tentation de revenir en arrière pour... on n'oublie pas, on continue. Hein, le coût de la santé, hein, je le rappelle, Santé publique France, début de cette année, janvier 2025, a émis le fait que la qualité de l'air intérieur pesait pour chaque habitant à hauteur de 198 euros par personne. Mmh. Donc on peut pas se dire qu'on passe à côté de cela, et notamment, bah c'est là, c'est bien ce qu'on a pu voir ici sur cette fin d'émission, les démarches volontaires, évidemment, elles vont aider à avancer, à pousser cette réglementation, à faire qu'elle ne recule pas déjà, et à l'amener un petit peu plus loin, qui est bon pour tout le monde. Un petit mot de fin, mon cher Yann ?
Rappeler la nécessaire, parce que pour moi, le problème principal actuel, il est sur la rénovation, donc rappeler l'importance, justement, de s'inspirer de ces démarches les plus vertueuses pour les intégrer dans les incitations qu'on peut faire sur le côté énergétique. Voilà, faut pas oublier la santé quand on met en place des dispositifs de performance énergétique et des incitations.
Voilà. Et je rajouterais qu'il faut aussi que les personnes qui s'occupent de la santé s'emparent de ce sujet au même titre. Hein. C'est pas parce que on est le monde de la construction et que le ministère du logement et autres s'empare du sujet et dit la santé, c'est nous qui allons nous en occuper. Il faut que ce travail soit au regard de tous les ministères vraiment concernés, la santé, la construction, le développement durable. Tout ça, c'est un travail multi-parti qui nécessite de faire au mieux dans cette approche finalement holistique à tout niveau.
Tout à fait, l'approche
merci
holistique dont
beaucoup,
on parlait tout à l'heure.
Mon cher Yann, au plaisir de
merci
se revoir
Nicolas.
Sur l'émission. Et puis bon retour à Montpellier pour passer ce mois de décembre et ces fêtes qui approchent. Chers amis et chers auditeurs et auditrices d'Élémentaire, merci encore de votre attention, de votre écoute. N'hésitez pas à regarder les émissions sur le podcast radio-imo.fr. Et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bien respirer, c'est élémentaire.
Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger sur le site et la